Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Lassalle sur Radio Courtoisie naturellement. Or je tiens tout d'abord à préciser que cette émission est préenregistrée quelques jours avant sa diffusion. Donc les auditeurs qui voudront se manifester à Bonisson comme d'habitude pourront le faire par les moyens habituels, une bonne vieille lettre manuscrite ou les moyens permis par la technique. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau donc, un habitué de ce studio. Une vieille connaissance qui me fait le plaisir d'être présent aujourd'hui, j'ai nommé Jean-Yves Le Gallou. Donc, doit-on encore le présenter? Je ne pense pas, mais je vais quand même le faire pour les plus jeunes auditeurs ou les novices qui se sont connectés à notre radio. Donc, Jean-Yves est énarque, ancien homme politique, il est directeur de la fondation Polémia et cofondateur de l'Institut Iliade. Il est surtout l'auteur de 20 livres. Parmi lesquels donc de nombreux livres consacrés à l'immigration, notamment un livre historique qui est paru à la fin des années 80, La préférence nationale, qui avait été d'ailleurs en son temps chroniqué par Guillaume Faïs dans la revue Élément en particulier. Il a également donc publié ses mémoires identitaires très récemment, je l'avais reçu d'ailleurs dernièrement pour cet ouvrage. D'autres ouvrages aussi que je pourrais signaler, notamment sur la préférence civilisationnelle, être européen chez Via Romana, et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir à nouveau pour un sujet qui est un sujet primordial, je dirais, un sujet vital, un sujet qui constitue un mythe mobilisateur pour notre mouvance, même une mouvance très étendue. Donc c'est un ouvrage qui s'intitule « Remigration pour l'Europe de nos enfants ». Une belle formule. Tiré notamment de Giorgio Locchi, si mes souvenirs sont bons. Donc, ouvrage paru dans une coédition Institut Iliade, La Nouvelle Librairie, et un ouvrage préfacé d'ailleurs, et Jean-Yves, tu vas l'évoquer tout de suite, par Martine Zenner, qui est aujourd'hui aussi une figure de proue de ce mouvement destiné à initier cette remigration.
Oui, alors Martin Zenner est un Autrichien. C'est un identitaire autrichien et c'est effectivement la figure de proue du mouvement de remigration par-delà les différentes frontières intérieures de l'Europe. C'est l'organisateur du sommet de la remigration qui a eu lieu en septembre dernier à Milan. C'est aussi l'organisateur du sommet de la remigration qui aura lieu à Porto, cette fois le 30 mai, et il monte un institut autour de la notion de remigration pour faire en quelque sorte du lobbying idéologique autour de ce concept absolument indispensable, je crois, aujourd'hui à la survie des peuples d'Europe.
Voilà, et comme il le précise bien dans sa préface, ce thème est susceptible de constituer un véritable mythe mobilisateur pour des mouvances, des organisations qui parfois peuvent ne pas être sur la même longueur d'onde sur des points de détail, sur des sensibilités. C'est vraiment un mythe mobilisateur qui s'adresse à tous les Européens qui veulent se perpétuer.
Voilà, assez simple. Il s'agit de savoir si les Européens peuvent continuer à rester, à vivre en européen sur la terre de leurs ancêtres, s'ils sont capables de reprendre leur héritage et d'avoir la volonté de le poursuivre, de le transmettre à leurs enfants, de le transmettre à la fois par le sang et par l'esprit à leurs enfants.
Et voilà, surtout avoir aussi la possibilité des fois d'étaler nos débats, nos petits clivages. Bon, mais s'il n'y a plus d'Europe, s'il n'y a plus d'Européens, ce sera bien.
Il peut y avoir beaucoup de clivages les uns et les autres. Ouais. Il peut y avoir des clivages géopolitiques, il peut y avoir des clivages sur l'économie, il peut y avoir des clivages sur la religion, il peut y avoir des clivages sur la politique quotidienne, on va dire. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est d'être conscient qu'on est européen par le sang et par la civilisation, par l'hérédité et par l'héritage.
Voilà, donc
c'est
vraiment
ça, ce qui me paraît le message central. C'est en tout cas le message central de ce livre consacré à la remigration.
Alors justement, ton livre se divise en deux grandes parties. On va essayer de survoler rapidement donc, les principaux points que tu abordes. Alors, tout d'abord, je crois qu'il est nécessaire de revenir un petit peu sur le fait que la remigration, il y a déjà des exemples sur la longue durée de l'histoire. C'est un concept qui, maintenant, effectivement, commence à prendre son envol depuis quelques années, mais on a quand même des exemples dans le passé de notre continent et de notre planète. Quoi.
Beaucoup d'exemples de remigration.
C'est une constante.
À la fois en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Alors, bon, la remigration auquel on pense souvent le plus facilement, c'est la remigration, la Reconquista espagnole. Qui a pris un certain temps, puisqu'elle a pris un peu plus de 8 siècles. Mais effectivement, les musulmans sont arrivés en Espagne en 711 et sont définitivement repartis en 1492, si on part de l'achèvement de la Reconquista, la conquête de Grenade, par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ou même 1609, puisque les Morisques, qui n'étaient pas assimilés, qui ne se sont pas assimilés, ont été reconduits de l'autre côté de la Méditerranée, dans d'assez bonnes conditions d'ailleurs, en 1609, par Philippe d'Espagne. Voilà.
Par Philippe II, tout à fait. Mais il y a aussi d'autres exemples. Voilà,
alors, il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, si on veut prendre des exemples plus contemporains, on pourrait citer, il y a eu beaucoup d'exemples intra-africains. De pays africains qui réémigrent chez eux leurs voisins. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Depuis la décolonisation, il y a une succession de remigrations qui mettent en scène parfois le Sénégal, le Mali, le Nigeria, tout, vraiment beaucoup de pays africains. Il y a aussi des remigrations récente aux États-Unis. Trump actuellement est en train de procéder à une remigration, en tout cas une remigration de clandestins, mais il y a eu le même phénomène à l'époque d'Eisenhower, où Eisenhower a repoussé, réémigré un certain nombre de Mexicains qui étaient surnommés les Wetbacks, puisqu'ils étaient censés avoir eu le dos mouillé
en passant le Rio Grande. Alors,
on trouve aussi des remigrations volontaires. On trouve aussi des remigrations volontaires. Je peux en citer une. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a un certain nombre d'Allemands de la Volga qui étaient arrivés, plus exactement, dont les parents, les ancêtres, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et même au-delà, étaient arrivés en Russie au XVIIIe siècle, à l'époque de la tsarine Catherine II, et qui sont revenus dans la mère patrie allemande à la chute de l'Union soviétique, de même que, par un mouvement finalement assez voisin, un certain nombre de Juifs qui étaient en Union soviétique sont partis en Israël. À ce moment-là, on fait leur alia en Israël, à ce moment-là, et toujours de manière semblable et en restant là dans le domaine des remigrations volontaires. Des remigrations volontaires, eh bien, on a les Russes, un certain nombre de Russes qui étaient au Kazakhstan et qui sont repartis volontairement, par choix, en Russie. Voilà. Donc, il y a des remigrations encouragées, il y a des remigrations forcées, il y a aussi des remigrations volontaires. Il y a parfois, il faut ne pas le cacher, il y a aussi parfois des remigrations violentes, comme celles auxquelles les Algériens ont procédé vis-à-vis des Pieds Noirs en 1962, qui ont été chassés de manière extrêmement brutal et qu'on a appelé, le terme mérite d'être retenu tout de même, des rapatriés.
Oui, tout à fait. On pourra en reparler. Alors, cette question de la remigration aussi, elle met en avant quelque chose sur lequel nous sommes sommés, et je crois que nous devons le faire de beaucoup plus insister, notamment ça rentre dans un cadre légitime, c'est la question de la continuité historique des peuples européens et de leur auto-autonomité, de leur antériorité sur notre continent, sur les terres en quelque sorte de leurs ancêtres. Et là, tu, dans ton chapitre, tu mets en avant des apports récents d'une science qui s'appelle la paléogénétique,
oui,
et qui vraiment repousse sur de très longue durée la présence de nos ancêtres les plus lointains, les plus directs aussi, sur notre continent.
Oui, alors, si on prend chaque pays européen séparément, et compte tenu des mouvements de population qui ont pu avoir lieu, on peut considérer que des pays comme l'Italie, comme la France, comme l'Allemagne, ont un peuplement qui a été établi il y a 2500 ou 3000 ans. C'est un peu plus récent pour l'Angleterre, où il y a eu des mouvements d'échanges de population entre les Saxons, les Nordiques et les
Vikings, ou la Danois, tout ça,
etc. Oui. Plus récent. Mmh. Et donc, on va dire l'Angleterre, c'est 1500 ans, mais la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est plutôt 2500 ans, ce qui est quand même tout à fait important. Mais si on raisonne cette fois de manière globale, à l'échelle de l'ensemble de l'Europe, alors on peut remonter beaucoup plus loin et voir que le peuplement européen actuel, il résulte de la fusion de trois groupes successifs qui avaient d'ailleurs eux-mêmes des rapports entre eux. D'abord, les chasseurs-cueilleurs, qui sont présents en Europe depuis 40 000 ans. Les chasseurs-cueilleurs, c'est eux, c'est la grotte Chauvet.
Oui, voilà, comme tu le signales.
C'est Lascaux, c'est-à-dire la grotte Chauvet. Ce sont des œuvres d'art, la peinture, les plus anciennes connues dans le monde. Ce sont nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient à l'époque dans la partie de l'Europe libérée des glaces. Voilà, parce que c'est quand même ça qui compte aussi, c'est que l'Europe à l'époque, nous vivions à l'époque glaciaire, et les chasseurs-cueilleurs vivaient plutôt dans la partie sud ou centrale de l'Europe, en tout cas là où il n'y avait pas de glace. Donc les chasseurs-cueilleurs, ça remonte à 40 000 ans. 40 000 ans, c'est quand même sacrément sérieux. C'est 1200 générations peut-être. Et puis, il y a eu un apport il y a environ 8-9 000 ans, de ce qu'on appelle les agriculteurs anatoliens, qui ne correspondent pas d'ailleurs aux Anatoliens actuels, puisque ce n'étaient pas des Turcs. Les agriculteurs anatoliens qui sont arrivés en Europe par les côtes de la Méditerranée et par le Danube, et qui ont apporté avec eux l'agriculture, une certaine forme de sédentarisation, et puis qui sont connus par les mégalithes. Les mégalithes qu'on trouve aussi bien en Corse avec Palatinou qu'à Carnac, ou même dans les îles du nord de l'Écosse et dans d'autres régions encore. Ce sont les agriculteurs anatoliens qui ont fusionné en quelque sorte avec les chasseurs-cueilleurs. Là, ça remonte à 8-9 000 ans. Il y a aussi Knossos, la population
minoenne,
la Crèce, la civilisation
crétoise. Ouais.
Crétoise, c'est cela aussi. Et puis, il y a 5 000 ans, les Indo-Européens sont arrivés. Les Indo-Européens, ils descendent aussi de groupes de chasseurs-cueilleurs. Mais c'est un groupe de chasseurs-cueilleurs qui vient des steppes pontiques, c'est-à-dire les rivages de la mer Noire,
Ukraine et sud de la Russie.
Sud de la Russie, ouais. Bon.
Et surtout cette culture qu'on appelle Yamna ou Yamnaya.
Voilà, c'est une des branches, effectivement, des branches, et la culture Yamnaya. Et ils se sont répandus progressivement sur l'ensemble de l'Europe. Et c'est particulièrement important, parce que d'abord, il y a eu un apport génétique important, et il y a un apport culturel particulièrement fort, à la fois par les langues, puisque toutes les langues qui sont parlées en Europe, à l'exception de l'estonien, du finlandais, du hongrois et du basque, toutes les langues sont des langues indo-européennes, et que ces populations ont amené avec elles une conception de la vie, une conception de la société, et notamment la séparation des fonctions, l'organisation trifonctionnelle de la société entre ce qui relève de la souveraineté politique, magique et religieuse, ce qui relève de la guerre et de la défense, et ce qui relève de la production. Distinction qu'on retrouve d'ailleurs au Moyen Âge avec
Oratores, Bellatores, Laboratores. Laboratores.
Tout voilà. À fait, oui. Donc les Indo-Européens sont extrêmement importants, et ça remonte à 5000 ans, et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le peuplement européen n'a plus changé. Je vais y revenir. Donc, on a un peuplement européen très ancien, 5000 ans, c'est 180, 200, 200 générations. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut faire, enfin, pas en France, parce que c'est interdit, mais on peut le faire depuis la Suisse, depuis la Belgique ou depuis un pays voisin, chacun peut faire un test génétique sur ses origines. Et on voit très bien que dans ces tests génétiques sur les origines, les Européens, quel que soit l'endroit d'Europe d'où ils viennent, eh bien, ont ces trois composantes de population, les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs anatoliens et les Indo-Européens. Alors, ça peut varier dans la proportion.
Bien entendu, oui.
Entre le nord et le sud. Dans le nord, il y a peut-être plus de chasseurs-cueilleurs et d'Indo-Européens. Dans le sud, un peu plus d'agriculteurs anatoliens. Mais ça dépend beaucoup. Et chaque personne est elle-même un composé de ces trois données. Et ce qui est important de voir, c'est que depuis 5000 ans, il n'y a pas eu d'apport extérieur en Europe. Puisque toutes les tentatives d'invasion, et notamment, il faut bien le reconnaître, les invasions arabo-musulmanes ou turco-musulmanes, ont été repoussées en Espagne, sur la Méditerranée, et même dans les Balkans, même si dans les Balkans, ça a été un peu moins fort, puisqu'il y a quand même eu une présence turque dans les Balkans, et même en Hongrie à une certaine période. Mais globalement, les invasions ont été repoussées. On peut d'ailleurs être, je ne sais pas d'ailleurs si les Européens de l'Ouest sont tout à fait assez reconnaissants aux Européens de l'Est, parce que ce sont les Européens de l'Est qui ont repoussé à la fois les invasions turques et musulmanes, et s'agissant notamment des Polonais, ceux qui ont repoussé les invasions mongoles, puisque les Mongols ont quand même occupé la Russie pendant plusieurs siècles, mais ils ne sont restés qu'une douzaine d'années dans l'ouest de l'Europe, parce qu'ils ont été repoussés. Et de ce point de vue-là, les Européens de l'Ouest ont protégé l'ensemble de l'Europe. Et la réussite de l'Europe, c'est deux choses. C'est à la fois la compétition économique, la compétition culturelle, il faut bien le dire aussi, la compétition guerrière entre les différentes nations et les différentes fractions européennes, mais c'est aussi la protection de cet ensemble par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est une extraordinaire. Nous avons 5000 ans de continuité d'ethnogénèse, 5000 ans de continuité ethnique, et qui sont restés. L'Europe n'a pas été modifiée dans son peuplement jusqu'en 1960, et à partir de 1960 le début de l'invasion migratoire qui commence par l'Angleterre et par la France. Voilà. À partir des années 60, et qui ensuite va concerner absolument tous les pays, puisque des pays qui ont échappé à cela jusque dans les années 80-90, je pense aux pays scandinaves, ont été aussi touchés par ce phénomène, et des pays qui ont été épargnés jusque dans les années 2010-2020, comme le Portugal, sont aujourd'hui aussi touchés. C'est-à-dire le phénomène d'invasion migratoire concerne aujourd'hui tous les pays européens, alors que jusqu'en 1960-1970, le peuplement européen n'avait absolument pas changé. Il était stable et c'est évidemment une des conditions de l'extraordinaire développement de l'Europe.
Voilà. Et comme tu le précises dans ce chapitre, nous avons toute légitimité, bon, en fonction notamment de la fameuse déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones, ben de nous proclamer comme peuple premier, comme véritables autochtones.
Écoutez, absolument, on le dit pour les Kanaks. Les Kanaks sont quelques dizaines de milliers en Nouvelle-Calédonie et on leur reconnaît, ou un peu plus de 100 000 peut-être, on leur reconnaît le droit, des droits particuliers sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils sont le peuple premier. On reconnaît d'ailleurs la même chose aux Inuits qui sont 60 000 au Groenland. Et on reconnaît, ce qui est vrai, que le peuple premier du Groenland, ce sont les Inuits, ils sont 60 000. Ils sont 60 000 sur 2 millions de kilomètres carrés. Nous, les Européens, nous sommes le peuple premier en Europe et nous sommes 450 millions sur 4 millions de kilomètres carrés. Donc, on est déjà beaucoup plus serré. Et donc, on a des raisons supplémentaires d'affirmer notre prééminence, notre prévalence, notre priorité.
Tout à fait, quoi.
Et ça, il faut l'assumer tel quel. Il faut l'assumer tel quel. La première raison de la remigration, c'est que nous sommes ici chez nous et que nous avons le devoir de transmettre l'héritage que nous avons reçu, encore une fois, héritage génétique, héritage culturel, héritage civilisationnel.
Voilà, donc c'est cette notion de continuité historique qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant systématiquement.
Nous sommes le peuple historique premier. Voilà.
Alors, le pourquoi de la migration, c'est également, mais bon, on ne va peut-être pas trop développer, je crois que nos auditeurs ont bien compris, c'est aussi des nuisances, un processus de décivilisation, oui. de guerre moléculaire, comme dirait un essayiste qui avait travaillé là-dessus, donc de violence au quotidien, de djihad de basse intensité, et que peuvent constater tous nos contemporains depuis des années, et un processus qui ne va censé s'accroissant. Et on sait que bon, ben, voilà, l'immigration extra-européenne joue un rôle important dans ces changements profonds qui ébranlent nos sociétés.
Alors, il y a effectivement, là j'ai parlé des raisons de long terme,
ouais.
le droit à la continuité historique du peuple, mais il y a aussi des raisons pratique et de court terme, le droit à la tranquillité et l'espérance de vivre dans une société de confiance. À partir du moment où vous avez des populations différentes, avec des mœurs différentes, des coutumes différentes, eh bien, il y a des frictions dans les rapports parce que ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent et la confiance est difficile. Et d'ailleurs, on voit très bien. On a fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans la publicité pour le vivre ensemble. Ben, on voit que le vivre ensemble, entre guillemets...
Voilà, et toutes les politiques de la ville possibles, imaginables.
Ça ne marche pas. On a investi, les contribuables ont dépensé des dizaines et des centaines de milliards dans la politique de la ville, dans la subvention à des associations, dans la lutte contre l'exclusion, et j'en passe. C'est un échec. Donc ça, c'est une raison. C'est la deuxième raison de refuser l'immigration de masse, d'aller vers une remigration, mais c'est une raison moins fondamentale que la première qu'on a évoquée au départ, qui est le droit à rester dans sa continuité historique, à assumer son héritage et à le transmettre. C'est pour cela que le sous-titre du livre, c'est pour l'Europe de nos enfants, pour que nos enfants, nos petits-enfants, les descendants de nos descendants, vivent encore sur une terre européenne, vivent en Europe sur une terre européenne.
Voilà cette notion d'ailleurs que Guillaume Fay avait développée à l'époque, cette notion de filia, cette chair à estoque, des affinités, oui. Et c'est quelque chose qui est vraiment épidermique, organique, je veux dire, c'est des choses qui se ressentent profondément au quotidien, et puis comme tu le dis, bon, les phénomènes que nous décrivons aujourd'hui, bon, mais on a pu les constater à notre échelle personnel, quoi. Bon, toi comme moi, même si nous avons une différence d'âge, on peut faire des comparaisons, quoi, par rapport à une certaine paix civile, une certaine une société apaisée, bon, malgré bien sûr des phénomènes classiques de violence, mais qui n'avait pas atteint le stade que nous pouvons constater aujourd'hui, quoi.
Il y a un changement absolument, absolument radical. Ce qui répond à la formule de Renaud Camus à propos de l'immigration, ouvrez les yeux, mais qui aujourd'hui est totalement confirmé par les statistiques. Il y a un certain nombre de gens qui font un travail remarquable dans ce domaine. Je pense à l'Observatoire de l'information et de la démographie, dont le directeur vient de publier d'ailleurs un livre sur l'immigration. Mais aussi à Avant-Garde, qui est un statisticien qui objective, pour employer le langage des technocrates, qui objective ce que l'opinion ressent et que ce Camus appelle, Renaud Camus appelle, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux.
Voilà. Là, on pourrait citer aussi les ouvrages de notre ami journaliste François Bousquet, qui vient de sortir d'ailleurs un tome 2
sur le racisme anti-blanc.
Voilà,
qui a longtemps été nié et qui est évidemment absolument manifeste. Il y a d'ailleurs eu, en même temps que le deuxième tome du livre de Bousquet sortait, il y a eu un sondage de l'IFOP sur la manière dont les gens ressentaient le racisme et la discrimination en raison de leur origine, et il apparaît que 38%, d'après les déclarations, les autodéclarations, 38% des Français de souche ressentaient ce racisme anti-blanc. Ça ne fait jamais que 20 millions de personnes. Donc ça prouve à quel point le phénomène est massif et non pas du tout marginal.
Alors, tu citais il y a quelques minutes Renaud Camus. Mais effectivement, nos auditeurs savent que Renaud Camus a contribué à créer et a ensuite... à diffuser, un concept qu'on a longtemps présenté comme un fantasme d'extrême droite, mais qu'aujourd'hui apparaît avec sa cruelle vérité, sa cruelle réalité, c'est le concept de grand remplacement. Et la remigration est justement un moyen aussi de pallier en partie remplacement.
Le concept de grand remplacement qui est à la fois qui a été nié, qui a été qualifié de théorie complotiste, alors que c'est simplement un constat, a été repris à sa manière par Jean-Luc Mélenchon, qui a d'abord parlé de créolisation, puis comme il a vu que ça ne correspondait pas assez bien, il a trouvé un autre terme qui est les racisés. Qu'est-ce que c'est que les racisés? C'est ceux qui ne sont pas blancs, c'est ceux qui remplacent les blancs. Ce que le maire de Saint-Denis, M. Bagayoko, exprime d'ailleurs à sa manière plutôt crue en disant « mais Monsieur Bardella n'a rien à faire à Saint-Denis. »
Oui, on a vu ça là aujourd'hui.
Voilà, ce n'est pas un dionysien. Ouais. Bon, alors ça, c'est et Mélenchon donc a trouvé comme parallèle, en quelque sorte, version extrême gauche de la réalité du grand remplacement, les racisés et aujourd'hui la Nouvelle France. Alors c'est extraordinaire l'expression Nouvelle France, parce que la Nouvelle France, la vraie Nouvelle France, c'est le Québec, qui est une terre vide, peuplé par des gens qui viennent de l'ouest de la France, de Bretagne, d'Anjou, de Normandie. C'est la Nouvelle-France, parce que c'est une terre vide, peuplée par des gens qui viennent de France, par des Français. Et aujourd'hui, la Nouvelle-France, c'est un territoire français occupé par des gens qui viennent d'Afrique, du Maghreb, d'Afghanistan ou que sais-je encore. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Alors, dans ton chapitre, effectivement, tu montres également que nous avons un gros problème en France. On a une interdiction des statistiques ethniques, mais il y a quand même des indicateurs. Il y a des indicateurs chiffrés. Par exemple, sur les octrois des prénoms aux nouveau-nés, on voit les changements qui peuvent s'effectuer entre 1994 et 2024, avec deux cartes en couleur qui figurent dedans. Tu avais aussi mis l'accent sur le fait de détecter une maladie typique de certaines populations extra-européennes, la drépanocytose. Oui. Et on casse le thermomètre, là, d'après.
On casse le thermomètre, pas totalement. La drépanocytose, effectivement, on dépistait les enfants... À la naissance, les enfants qui avaient une origine africaine, maghrébine, d'Asie du Sud ou d'Amérique latine, tout pays où, dont les enfants qui sont issus de personnes venant de ces pays-là sont susceptibles d'avoir cette maladie. Donc on l'a dépisté et on a commencé à dépister en Île-de-France en 1993 et on a dépisté sur l'ensemble du territoire en 2000. Et en 2000, on dépistait à peu près 20% des nouveau-nés. Et 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, 20-25 ans plus tard, on en dépistait plus de 40%. Et donc, comme c'était utilisé par les milieux identitaires pour évaluer la progression de l'immigration, le gouvernement, dans son immense sagesse, a décidé de dépister tout le monde, y compris des enfants pour lesquels c'est parfaitement inutile. Donc ils ont rajouté un coût supplémentaire en termes de dépistage. Bon, c'est pas très lourd, mais enfin, c'est un coût financier, uniquement pour des raisons idéologiques. Alors, c'est pas non plus très sérieux, parce que dans le dépistage, on raisonnait sur l'ensemble des enfants dépistés. 20% dépistés en 2000, 40% aujourd'hui. Mais on peut raisonner en dépistage positif. Et on voit la même régression. Alors, les nombres sont modestes. On a démarré à 300-350 nouveau-nés positifs. Et aujourd'hui, on est à 600-700. Et donc, on voit bien que même si on n'arrivera jamais à casser complètement le thermomètre. Mmh. Voilà. Mais l'intention maligne des autorités administratives et sanitaires est évidemment manifeste dans cette affaire.
Alors, en tout cas, tu rappelles également, bon, lié à cette question de remplacement, que ce qui est primordial dans l'histoire, c'est la question démographique. Et tu cites par exemple des chiffres effrayants concernant la Suède. La Suède qui n'est pas une ancienne puissance coloniale, qui a pratiqué une politique extrêmement laxiste et libérale avec les sociodémocrates, le fameux modèle suédois dont on a beaucoup parlé à une certaine époque. Et là, on voit un changement brutal, extrêmement rapide. Comme tu le cites, on arrive en 2024 à 27,5% de la population suédoise qui n'est pas d'origine européenne. Oui. Alors que c'était une société extrêmement homogène sur le plan ethnique, qui permettait d'ailleurs ce modèle suédois.
Absolument.
Ses qualités et ses défauts, bien sûr.
Oui, alors, si vous voulez, la Suède, c'est assez intéressant, comme les pays scandinaves, d'ailleurs, parce que l'immigration est arrivée beaucoup plus tardivement qu'en France et en Grande-Bretagne, mais en même temps, elle est arrivée plus massivement. C'est-à-dire le pourcentage d'entrée était beaucoup plus fort, et on arrivait, en extrapolant les courbes, on arrivait très vite à la mise en minorité des Suédois d'origine européenne dès 2045 ou 2050. Alors, évidemment, les prévisions, elles ne se vérifient pas toujours et elles ne se vérifieront probablement pas parce qu'il y a un coup de frein important en Suède qui a été opéré quelques années et il y a un gouvernement plutôt conservateur qui s'appuie sur les démocrates suédois qui est le parti identitaire et populiste suédois et donc il y a une politique de freinage qui a été menée. Il y a un autre exemple de pays scandinave qui a freiné aussi la politique, mais alors de manière différente.
Le Danemark.
Le Danemark, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, un parti qui s'est construit contre l'immigration, qui est le parti du peuple danois, qui est monté à des scores assez importants, hein, de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, il est beaucoup retombé. Alors, on pourrait dire, mais c'est très triste. Oui et non, parce qu'il est beaucoup retombé, parce que là, ce sont les sociodémocrates qui ont adopté une politique restrictive en matière d'immigration pour défendre le modèle social danois, ce qui est le simple bon sens que manifestement on n'a pas en France, c'est-à-dire que quand vous avez un modèle social généreux qui est basé sur la production sur un territoire limité, ça peut marcher, mais à partir du moment où vous étendez les bénéficiaires du modèle social généreux au monde entier, ça ne peut pas marcher.
Mais forcément.
Et donc les Danois ont compris ça, ce que les socialistes et les centristes français n'ont pas encore compris. Ils ont mis en place une politique beaucoup plus restrictive de l'immigration. Je pense qu'actuellement, c'est le Danemark qui a la politique la plus maîtrisée en matière d'immigration. Je ne pense pas que ce soit parfait, mais c'est sans doute ce qui est le plus sérieux. Voilà.
Alors, tu parles politique, tu parles de choses concrètes, mais ça nous amène à la deuxième partie de ton livre, donc après le pourquoi, le comment. Et dans ce comment, tu vas justement nous faire part de pistes de réflexion et d'action, mais qui sont tout à fait faisables dans les cadres institutionnels actuels.
Alors,
plus ou moins en tout cas,
pour un
début de processus en
fait.
Je
dirais pas tout à fait ça, parce que je pense que dans toute toute l'Europe, pas seulement en France, le vrai pouvoir, notamment en matière migratoire, il est dans les mains des juges.
Je vais te dire, voilà. Voilà.
Et oui. Notamment, il y a deux domaines. Mm-hmm. Ce sont les juges qui ont totalement la main. C'est le regroupement familial et c'est le droit d'asile. Voilà.
Voilà. Et de manière générale, c'est
si
le...
Si on ne retire pas le pouvoir aux juges, ou plus exactement, si on ne remet pas au premier plan des règles qu'on applique, non pas des jurisprudences fantaisistes tirées de textes généraux, mais tout simplement du domaine de la loi, si on ne redonne pas aux législateurs, c'est-à-dire au peuple directement par référendum ou indirectement par les parlementaires, le pouvoir sur l'immigration, on ne règle pas le problème. Et ce problème des juges se pose dans tous les pays européens, plus ou moins fortement.
Voilà. Et ce phénomène, en fait, oui, qui limite en fait compte les possibilités dans le cadre actuel, bah, tu le situes de manière générale dans le fourvoiement d'une notion qu'on met aujourd'hui, qu'on fétichise quasiment, c'est-à-dire la notion d'état de droit. Et tu rappelles que bon, on est passé du droit de l'immigration au droit à l'immigration.
Alors, si vous voulez, dans l'abus de l'état de droit, dans l'état de droit, il y a deux choses. Il y a une chose qui est assez naturelle, on va dire, et qu'on peut tout à fait partager, c'est la hiérarchie des normes. La Constitution est plus importante que la loi. Le traité international est aussi important, voire plus important que la loi. La loi est plus importante que le décret est plus important que l'arrêté. C'est de la hiérarchie des normes. Mmh. Très bien. Là où c'est totalement perverti, c'est que les juges interprètent à leur manière des textes généraux. La Constitution, ce sont des textes généraux. Les traités internationaux, ce sont des textes généraux. Et donc, les juges font une interprétation purement idéologique de ces textes généraux. Je peux vous citer un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous vous souvenez de l'affaire de Cédric Héroux? Cédric Héroux, c'est un agriculteur...
Oui, dans les Alpes-Maritimes.
C'est un gauchiste des Alpes-Maritimes.
Ouais, frontière franco-italienne. Ouais.
Et dont l'activité principale consiste à accueillir, à faire passer des migrants. Il a été condamné pour aide au séjour clandestin, ce qui était prévu par la loi. Et donc, ses avocats ont fait appel en posant une question prioritaire de constitutionnalité, en disant « Oui, mais condamner quelqu'un qui aide des clandestins, c'est contraire au principe de fraternité. » Et le Conseil constitutionnel a dit « Ah ben oui, il y a le principe de liberté, égalité, fraternité, il y a le principe de fraternité. » Donc la fraternité, au départ, même dans le sens révolutionnaire initial, c'est entre frères, c'est-à-dire au sein de la communauté nationale. Mais ça fait, il y a le principe de fraternité, on étend le principe de fraternité à l'humanité, et on dit, ah, et bah, voilà, on ne peut pas s'opposer au clandestin. Ça n'a jamais été écrit nulle part, c'est de la pure surinterprétation de la part du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire neuf types sans grande légitimité, qui se contentent généralement de valider des décisions prévues par des conseillers d'État qui n'ont pas davantage de légitimité.
Voilà, et puis des titres dont on connaît
la
provenance idéologique. Quoi.
Dire,
voilà.
Moi, je pose
on a sanctuarisé ces
questions. Je pose souvent, quand je fais des interventions à l'Institut de formation politique, au départ, je leur pose une colle. Quelles sont les personnes qui comptent le plus, qui pèsent le plus sur la politique de l'immigration? Alors, en général, ils me répondent le ministre de l'Intérieur. Et bien, pas du tout. Je leur dis non, celui qui pèse le plus sur la politique de l'immigration, c'est monsieur Andrieux. Ah, monsieur Andrieux, qui est monsieur Andrieux?
Qui est monsieur Andrieux?
Qui est monsieur Andrieux? Ben, monsieur Andrieux, c'est le président de la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est lui dont l'institution décide des catégories entières de population qui ont droit à l'asile, Alors là, il y a tout. Hein. Il y a les femmes afghanes, les femmes somaliennes.
L'homosexuel les, sénégalais, voilà. Togolais,
donc, le transgenre péruvien, quand même, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ça, c'est la scène d'air. Et puis, vous avez un autre acteur, qui est M. Tabuteau, qui est le président du Conseil d'État, qui coiffe tous les tribunaux administratifs. Et donc, les tribunaux administratifs, ils valident à la fois les accès ou non à la nationalité française. Ils valident le droit au séjour, l'immigration familiale, et ils valident, ou plus exactement, ils invalident les ordres de quitter le territoire français. Donc les deux personnages les plus importants sont totalement inconnus du grand public et qui n'imaginent pas. C'est le problème, c'est quand on raconte ça, les gens disent mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible.
Mais qui ont pouvoir exorbitant.
Et donc le vrai problème qu'il faut poser. Parce que avant de la première étape de la remigration, c'est l'arrêt de l'immigration nouvelle. C'est la première étape.
Bien sûr.
Voilà. Et donc après, on peut décliner la suite.
Voilà, avec toutes ces déclinaisons, mineurs isolés, bon, le droit d'asile, on vient d'en parler, etc. Maintenant, un bobino pour notre radio avant de reprendre l'antenne.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bien, je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Yves Le Gallou pour son dernier manifeste intitulé « Remigration pour l'Europe de nos enfants ». Coédité par l'Institut Iliad et les éditions de la Nouvelle Librairie et préfacée par l'Autrichien Martin Zellner. Alors, on parlait effectivement de ce gros problème, de cet état de droit fourvoyé, de cette nef des fous représentée par le gouvernement des juges. Et toi, bon, tu mets en avant dans un chapitre de ton ouvrage donc, cette nécessité de briser cette véritable dictature judiciaire à travers un véritable juge-exit.
Oui. Alors, le juge exit doit se faire par la révision de la Constitution et par la reprise du pouvoir législatif par le peuple et par le Parlement. Il faut que les lois s'appliquent et qu'elles ne soient pas défaites par l'application de principes généraux totalement abstraits, surinterprétés par des juges progressistes. Alors ça, c'est la première étape. Mais le problème est le même en Allemagne. Le problème est le même en Suède. Il y a une réforme de la nationalité en Suède qui est pour le moment bloquée par la Cour constitutionnelle. Il y a en Allemagne la volonté de limiter, de restreindre légèrement le regroupement familial pour les demandeurs d'asile, qui est bloqué pour le moment par l'examen de ce texte par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, dans tous les pays, il y a un peu le même problème. En Grande-Bretagne, qui n'a pourtant pas un gouvernement très féroce en matière d'immigration, quand il y a eu la tentative de mettre des hubs d'asile en dehors des frontières, ça a été bloqué par la haute cour de Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, les noms varient d'un pays à l'autre, mais la dictature des juges se retrouve d'un pays à l'autre. Voilà.
En tout cas, il y a un problème aussi par le fait que bon, l'idéologie progressiste prévaut de manière extrêmement majoritaire dans la plupart des corps judiciaires de notre continent.
L'idéologie progressiste prévaut...
En France en particulier, avec la magistrature.
Dans les cours judiciaires, ouais. Effectivement. Et elle prévaut aussi dans les médias. Et donc, ça fonctionne un peu en synergie. C'est-à-dire qu'un juge qui va rendre des jugements progressistes sera loué dans les médias. Un juge qui va rendre des jugements moins progressistes va être dénoncé dans les médias et va être éliminé. Je vais vous donner un exemple. En 2014, il y a un juge au tribunal administratif de Lyon qui avait été élu au conseil municipal d'Orléans, chargé par le maire LR, je crois, à l'époque, de la lutte contre l'immigration clandestine. eh bien, il y a eu une bronca dans la presse sionnaise contre ce juge qui a été écarté, ce juge administratif, qui a été écarté des décisions sur les questions d'immigration. Mm-hmm. Je vais vous donner un autre exemple. La Cour nationale du droit d'asile, elle recrute beaucoup, dans la composition de ces différentes chambres, elle recrute beaucoup d'anciens hauts fonctionnaires. D'anciens hauts fonctionnaires, notamment du ministère de l'Intérieur. Donc, à ce titre, je pourrais tout à fait postuler. Est-ce que vous pensez que j'ai une chance d'être retenu? Non. Et donc, il y a évidemment un biais. Et alors, je dis ça, je peux paraître peut-être un peu caricatural, mais les juges qui font cela, ils savent que s'ils sont trop sévères dans leur jugement, on ne les reprendra plus. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans un système. L'indépendance est voilà, tout à fait.
Il n'y a pas d'indépendance, quoi. Mais comment briser ce cercle, en fait? C'est ça la question. C'est une grande question. Voilà.
Déjà en le voilà. disant. Ouais. Déjà, vous savez, il faut d'abord dire le problème. Parce que moi, ce qui me navre un peu dans le débat sur l'immigration, tel qu'on l'entend, notamment dans le débat politique ou dans le débat administratif, c'est qu'on va rarement à l'essentiel. On agite du verbe, mais on ne va pas à l'essentiel. Voilà. Et je veux dire, dans le discours politique, c'est extrêmement facile d'agiter des moulinets. C'est beaucoup plus difficile d'agir dans la réalité. Est-ce que vous savez, il y a eu une vingtaine de ministres, un peu moins, de l'Intérieur qui sont succédés depuis le gouvernement de M. Jospin, en commençant par le socialiste Vaillant et en terminant par M. Retailleau. Est-ce que vous savez quel est le ministre qui a fait entrer le moins, qui a délivré le moins de titres de séjour et quel est le ministre qui a délivré le plus de titres de séjour?
Tu vas nous le dire.
C'est extrêmement simple. Le ministre qui a délivré le moins de titres de séjour, c'est le socialiste Vaillant, qui est le premier. Et le ministre qui a délivré le plus de titres de séjour,
Retailleau.
C'est M. Retailleau, ouais. qui est le dernier, en ayant délivré 380 000, plus 10% par rapport à M. Darmanin, qui avait déjà pas mal réussi, et pratiquement près de trois fois plus que M. Vaillant, le socialiste. Et chaque ministre a délivré plus de titres de séjour que son prédécesseur. Chaque ministre.
Donc ce processus est allé croissant.
À une exception, mais c'est une légère inflexion, celle de Claude Guéant en 2011-2012. Voilà. À part cette exception. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que la majorité des titres de séjour sont automatiques. C'est ce que j'appelle le droit à l'immigration. Le regroupement familial, vous répondez à certaines conditions, vous avez droit au regroupement familial. Vous déclarez demandeurs d'asile, eh bien, ce sont les juges qui décident, en fonction de critères qu'ils ont définis eux-mêmes, si vous avez droit ou non à l'asile. Et donc, vous avez déjà la moitié des gens qui obtiennent des titres de séjour qui les obtiennent automatiquement.
Ouais,
ajoutez à ça les étudiants, le travail, et puis les gens qu'on régularise, et vous arrivez au total de 380 000.
Alors justement, dans la mise en pratique d'un processus de remigration,
oui.
Voilà, lapsus, j'espère pas révélateur, donc sur une période plus ou moins longue, donc tu détermines tout d'abord une première étape, hein, donc une étape qui s'inscrit dans une sorte de progressivité, une grande pause donc en tant que première étape de la remigration.
Voilà, la première étape, c'est d'arrêter de continuer à faire entrer des gens. Voilà, et donc fermer les titres
réguliers ou
plus de titres de travail,
sans papier, quoi.
Plus de titres nouveaux de travail, plus de titres d'étudiant, ou plus exactement, limitation considérable des titres d'étudiant. On n'a pas besoin d'étudiants en sociologie venant du Mali, c'est pas d'une utilité formidable. Bon, donc, du Mali ou d'ailleurs. Et puis. Eh bien, effectivement, on arrête le regroupement familial, ce qui suppose effectivement de changer le pouvoir par rapport au juge, et on arrête l'asile où on le met de manière tout à fait marginale. On accepte quelques centaines ou quelques milliers de cas par an, mais certainement pas 60 000. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est la pause. La pause engendrera inévitablement un début de remigration, puisqu'il y a quand même des départs, si vous voulez, il y a des arrivées, mais il y a quand même des départs spontanés, voilà, bon, dont les chiffres sont peu connus, mais qui existent quand même. Donc la pause, c'est déjà le début de la remigration.
Mais ça va nuire à l'attractivité, en quelque sorte, hein, voilà, du processus
Il y a aussi, il faut évidemment accompagner cela de l'arrêt des processus d'attractivité, c'est-à-dire mettre en place... supprimer les pompes aspirantes mettre en place des processus de préférence nationale pour l'accès notamment à toutes sortes de prestations sociales ou médicales d'ailleurs bon
logement etc
logement etc bon voilà donc ça c'est la première étape donc la pause accompagnée d'une mise en place de mécanismes de préférence nationale pour couper les pompes aspirantes. Ça, c'est la première étape.
La deuxième étape, donc, sur un mode ferme et équitable, tu parles donc de rapatriement, de processus de rapatriement à commencer à mettre en œuvre, donc, en tout cas dans un premier temps.
Alors, la première étape, deuxième étape, c'est la pause. La deuxième étape, c'est les clandestins. Les clandestins, il y en a, je pense, plus d'un million. Je pense plus d'un million. Mais bon, allez, mettons cet ordre de grandeur. Monsieur Nunez, qui avait commencé à dire il y en a 250 000, est très vite monté à 800 000. Bon, donc un million de clandestins. Les clandestins n'ont absolument aucun droit au séjour en France. Voilà. Et donc, ils doivent être envoyés dans leur pays d'origine. Bien. Ensuite, il y a les délinquants. Alors, les délinquants, il y a 25 à 30 000 étrangers dans les prisons. Bon, alors, on peut estimer qu'ils pourraient faire leur peine dans le pays d'origine. On peut estimer aussi qu'on peut les renvoyer à l'issue de leur peine. Mais ça n'est qu'une partie des délinquants étrangers, puisque la majorité des délinquants ne sont pas condamnés à des peines de prison où on fait des peines courtes et sont sortis. Et donc, le complément des clandestins, c'est les délinquants. Et les délinquants, c'est très important parce que c'est ceux qui pourrissent la vie de tout le monde.
Et voilà.
Et c'est ceux qui encadrent un peu les autres. C'est ceux qui créent le climat. Et donc ça, c'est vraiment très important.
Voilà, donc, établir cette priorité, c'est aussi envoyer un signal fort, général.
C'est envoyer un signal tout à fait fort. Bon. Ensuite, vous avez les gens qui ont des titres de séjour, mais qui ne vivent que d'aide sociale. Soit de RSA, soit d'allocation familiale, soit de chômage. Bien cela, on n'est pas obligé de renouveler leur titre de séjour. Et cela aussi, c'est à coupler avec le mode préférence nationale, bien sûr. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à respirer beaucoup mieux. Vous avez d'abord allégé les charges de la fiscalité, vous avez allégé... les nuisances de la délinquance, ça va être déjà mieux. Alors, il y a une dernière catégorie. Alors, on vous parle toujours, généralement, ceux qui veulent vous expliquer que la remigration, c'est impossible, disent, mais alors, qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont là depuis deux, trois générations, qui sont nés ici, etc. Alors, c'est une vraie question, donc je trouve... Ça fait normal qu'on la pose. C'est pas la première question, si vous voulez. Première question de la remigration, on l'a dit, c'est la pause, c'est les clandestins, c'est ceux qui vivent d'aide sociale, les étrangers. Alors, je ne me dérobe pas à la troisième question, qui est, et alors les binationaux, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, je crois que s'agissant des binationaux, il faut distinguer trois catégories. Vous avez les binationaux, une partie des binationaux, issus d'Afrique, du Maghreb ou d'Asie, enfin, qu'importe, qui ne sont pas assimilés et qui sont hostiles. Qu'est-ce que j'appelle être hostile ? C'est ceux qui manifestent leur hostilité aux Français, par exemple, les jeunes, certains jeunes de la cité de Romans-sur-Isère qui sont allés agresser le bal de Crépole, oui. qu'ont violenté et tué un jeune homme au cri de « sale blanc, sale gouère », c'est ce que j'appelle non assimilés hostiles. Cela, non assimilés hostiles, la solution, c'est la déchéance de la nationalité, et la déchéance de nationalité étant prononcée, le dégagement en dehors des frontières. Vous avez aussi, et ils sont nombreux, vous avez aussi les inassimilés non hostiles, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas assimilés, ils continuent de pratiquer leur culture, leurs mœurs, mais sans exprimer d'hostilité manifeste,
voilà, franche,
à la population.
Ostentatoire, quoi.
Alors, cela, je pense que ce qui est souhaitable, c'est le retour, c'est de les encourager au retour, mais pas forcément de les forcer au retour. La logique, d'ailleurs, ça peut être le retour volontaire, parce qu'il serait quand même mieux dans le pays d'origine pour pratiquer leurs mœurs,
religion,
respecter leurs lois, leur religion, etc. Bon, voilà. Mais ça, c'est les inassimilés non hostiles. Et puis, vous avez les assimilés. Il y a des assimilés. Ben, les assimilés, il n'y a pas de problème. Ils peuvent rester. Le sujet n'existe pas. D'ailleurs, on en rencontre aussi régulièrement. Voilà. Donc, il faut.
Mais on pourrait te rétorquer quels seraient les critères objectifs pour à quel moment on met la barre de l'assimilation, de la considération d'une assimilation ou le contraire, quoi. Voilà.
Aussi. Bah alors, ouais. c'est pas parce que les frontières sont difficiles à délimiter.
Non, on est d'accord.
Je crois que pour les inassimilés hostiles, c'est assez clair. Ouais. Pour les assimilés, c'est quand même la pratique des mœurs françaises. Mmh, hein, les mœurs françaises, la connaissance de la culture française, le fait de bien parler français, mais aussi les mœurs françaises, tout simplement.
D'ailleurs, tu rappelles cet impératif de préférence nationale et surtout de préférence de civilisation.
Et voilà. C'est quelqu'un qui se trouve bien dans les codes de la civilisation européenne et de la civilisation européenne d'expression française. Voilà. Alors, on va me dire, c'est pas tout à fait objectif, mais je pense que s'agissant des inassimilés hostiles, c'est assez facilement objectivable. Et c'est là que je mets la barrière principale.
Ouais. Et pour la déchéance, la question d'une déchéance éventuelle de nationalité pour ceux qui n'ont que la nationalité française, comment ça pourrait se poser sur le plan juridique ? Ça aussi, il faudrait avoir une révision.
Alors, beaucoup sont binationaux, ouais. Ne serait-ce que parce que tout ce qui est Code de la nationalité des pays musulmans est fondé sur le droit de la filiation, le droit du sang. Et donc, ils sont binationaux. Alors, ils n'ont peut-être pas forcément tous fait des papiers dans le pays d'origine.
Mais voilà, mais beaucoup de pays d'origine sont considérés comme originaires de ce pays, des ancêtres. Voilà. Hein, ils sont considérés comme tels, quoi. Voilà, en fonction de ce que tu viens de dire, quoi. À la fois des critères raciaux, tout simplement, et des critères parfois religieux, dans le cas de l'Algérie en particulier. Quoi. Alors, tu parles d'une nécessité de mettre en place des solutions radicales pour éviter peut-être d'en venir aussi à cette éventualité qui est souvent agitée, l'éventualité d'une guerre civile, encore qu'on pourrait discuter du terme de guerre civile dans ce cas-là particulier.
Alors, moi, je crois que si on ne procède pas à la remigration rapidement, cela aboutira à une partition, à une territorialisation et à une multi-communautarisation. Et donc, on aura des morceaux de territoire qui obéiront à des lois, à des coutumes différentes. C'est absolument inéluctable. C'est un petit peu une libanisation. Voilà. Alors, la libanisation, ça a longtemps été pacifique, hein. Le Liban, jusque dans les années 70, était considéré comme la Suisse du Proche-Orient. Ça n'est plus le cas. Et donc, je crois que l'alternative est simple. C'est la remigration, et le plus vite sera le mieux, ou c'est la communautarisation. Et dans la communautarisation, là, je vais être très clair, je souhaite la communautarisation des Français d'origine européenne. Si la remigration ne se fait pas, la communautarisation des Français d'origine européenne est souhaitable à travers certaines implantations territoriales, le choix des écoles, le choix des quartiers. C'est d'ailleurs objectivement ce qui commence à se faire. Et les bons apôtres du vivre ensemble progressiste qui votent pour les amis de M. Macron ne scolarisent pas forcément leurs enfants dans la même école que M. Bakakoyo scolarise les siens. Hein. Voilà, il y a déjà une forme de communautarisation en France et dans d'autres pays européens d'ailleurs. Et donc le choix, c'est vraiment la remigration ou la communautarisation, avec le risque, s'agissant de la communautarisation, qu'effectivement, elle ne soit pas toujours
pacifique, calme, bien sûr. Voilà. Et avec cette logique, donc, d'après de partition, de territorialisation,
oui,
logique séparatiste, quoi, voilà, qu'on a pu voir ailleurs qu'en Europe. Quoi.
De municipalisation.
Mais effectivement, cette perspective, elle vise à éviter d'en arriver là. Mais bon, comme
Il faut. Il n'y a pas. Tout le reste. Hein, alors, continue, évidemment, dans le discours. Dans le discours politique confortable et vide de sens, on va dire « Ah ben l'assimilation !» Ouais, ça, c'est ce que peuvent dire des hommes politiques pour se moquer de la tête des électeurs. Parce que si l'assimilation devait fonctionner... Moi, je n'ai jamais cru à l'assimilation. J'ai marqué, d'ailleurs, dès la préférence nationale...
Tout à fait, ça avait marqué en son temps, les esprits en son temps.
84-85, ouais. Je le disais. Mais, à l'époque... C'était encore envisageable.
Mais pour un petit nombre, voilà. Ce n'est possible que pour un petit nombre. Voilà.
Mais ça n'a pas fonctionné. Depuis, la situation a radicalement changé. D'abord parce qu'on n'a plus un petit nombre. On a un très grand nombre qui est alimenté en permanence de l'extérieur et qui est nourri de discours plutôt haineux vis-à-vis de la population et de la civilisation d'origine.
Oui, voilà, on est dans les passions tristes du ressentiment, du revanchisme. Quoi.
Monsieur Retailleau de LR ou Monsieur Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National nous parle d'assimilation, il se moque du monde. Peut-être aurait-il pu en parler ainsi il y a 40 ans, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas possible. Donc, c'est la remigration ou la communautarisation. Voilà. Et moi, je préfère la remigration.
D'accord.
Mais je sais qu'il faut aussi peut-être se préparer à la communautarisation.
Et dans ce cas-là, bon, en tout cas, tu rappelles que cet impératif, il doit être avant tout un mot d'ordre qui doit se déployer sur toute l'Europe.
Et la remigration, c'est effectivement un mot d'ordre qui doit se déployer sur toute l'Europe avec le thème « Restons européens ». Gardons la terre d'Europe pour les Européens.
Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui parfois échappe à certains souverainistes, hein, en plus qui ne voient pas que, justement, c'est... D'ailleurs, en parlant de souverainisme, beaucoup d'ailleurs entretiennent encore cette illusion déjà de l'assimilation, mais en plus du fait que, voilà, il doit y avoir une synergie continentale européenne qui n'est pas, bien sûr, uniquement dans l'action, hein, en vue de cette remigration vitale et nécessaire, mais également une conscience civilisationnelle. Hein, qui nous unit, et comme tu l'as rappelé, notamment dans les différentes strates, et qui ont constitué donc, nos peuples sur la très longue durée.
Et si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les sommets de la remigration, où il y a toutes les nationalités d'Europe représentées. Mmh. par des gens jeunes. Je pense au sommet de Milan. Je pense que le sommet de Porto sera de même ordre. J'ai l'intention d'organiser un événement sur la remigration en France à l'automne. Enfin, on verra, je dirais, j'avancerai les choses le moment venu,
bien sûr, comme il se doit.
En liaison, sans doute, avec le sommet de la remigration, le Remigration Summit, et en liaison avec Polémia. Voilà, donc il faut faire avancer les choses, marcher ensemble en européen. Il y a d'ailleurs eu, sur un autre registre, une très belle fête européenne avec le colloque de l'Institut Iliad qui s'est tenu samedi dernier et où il y avait le point commun de tous les gens qui étaient là, qu'ils soient français ou allemand, norvégien, portugais, c'était d'être des Européens de cœur et de civilisation.
Tout à fait. Et c'est vraiment un moment fort, un moment revigorant. Et toutes ces rencontres, bon, que nous avons faites tous les deux, d'ailleurs, nous étions présents, et toi en particulier, bien sûr, dans le cadre de ce colloque, de cet événement annuel, et qui marque un petit peu le déploiement de nos idées nécessaires et surtout qui doivent nous mener à l'action. Alors, tu termines, bien sûr, sur ce slogan qui t'a repris à Tolkien, peuple de l'Ouest,
levez-vous.
Donc, c'est sur ces mots que nous allons clore notre entretien, mon cher Jean-Yves.
Merci, mon cher Pascal.
Je rappelle en tout cas ton livre qui a vraiment le mérite aussi d'être écrit dans une langue claire et directe, comme toujours, et synthétique. Donc, ton livre qui s'intitule tout simplement « Remigration pour l'Europe de nos enfants », donc coédité par l'Institut Iliad et l'édition La Nouvelle Librairie et préfacé par Martin Zellner. Voilà, donc nous reparlerons, qui était d'ailleurs présent lors de ce colloque que nous avons l'habitude, le plaisir tous les deux de croiser. Merci Jean-Yves et bon vent en quelque sorte, on continue l'action et puis à très bientôt pour de nouvelles thématiques et de nouvel ouvrage.
Ça prendra un peu plus de temps.
Merci. Alors, le moment est venu de prendre notre deuxième invité que je n'ai pas annoncé initialement. Notre deuxième invité que je présentais, ou plutôt qui va se présenter, n'est autre que Paul Seret. Paul, bonjour, m'entendez-vous ?
Bonjour à vous, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends fort et clair. Alors, Paul Seret, je le dis pour nos éditeurs, bien entendu, vient de publier un copieux ouvrage de plus de 500 pages, donc intitulé « Ungern, le dossier ». Sous-titré « Archives inédites, présentation, témoignage ». Alors, Ungern, je pense, pour beaucoup de nos auditeurs, en tout cas je l'espère, n'est pas sans évoquer, bien entendu, une figure mythique, on va dire, dans notre mouvance au sens plus ou moins large, celle du baron balte, Roman Fedorovitch von Ungern-Sternberg, une figure, donc on va y revenir, qui a été notamment dans notre mouvance popularisée par l'ouvrage devenu culte de Jean Mabir, de Feu Jean Mabir, qui s'intitulait Ungern, le baron fou, publié initialement donc aux éditions Ballant, réédité par Histoire d'Europe sous notre titre Ungern, le dieu de la guerre, qui convient de venir à Jean Mabir. On va parler ensuite de tous ceux, bien sûr, qui ont continué à contribuer à pérenniser le mythe. Dans la foulée de Mabir, lui, bien sûr, Hugo Pratt, avec son personnage de Corto Maltese en Sibérie. Alors, avant de venir justement sur une présentation générale, d'ailleurs, je permets de préciser, j'allais l'oublier, que votre ouvrage a été préfacé par Laurent Chang, qui avait préfacé lui-même aussi un autre témoignage qui a été publié, l'année dernière ou il y a 2 ans.
Et sur les éditions du Verbe Haut.
Voilà.
En l'occurrence.
Voilà. Alors, mon cher Paul, tout d'abord, je crois qu'il conviendrait de vous présenter, d'apprendre à nos auditeurs quel itinéraire, en fin de compte, assez singulier, vous a mené à évoquer Ungern, parce que je dois aussi préciser que vous avez rédigé publié il y a quelques années. On s'était mis en contact à cette époque-là, d'ailleurs. Un journal de voyage romancé, je reprends un petit peu les termes de Juan Asensio, qui vous avait interviewé là-dessus, intitulé « Le carrousel des ombres ».
Tout à fait, oui. C'est une vieille histoire, Ungern et moi, puisque j'avais entrepris, il y a 20 ans tout juste, exactement en janvier 2006, une traversée pédestre de la Sibérie, c'est-à-dire seul, à pied, sans assistance. Mission qui a été menée à bien, Et j'ai traversé notamment la Transbaïkalie, c'est-à-dire cette zone qui est située entre la Mongolie et le sud du Baïkal. Et là-bas, j'ai entendu parler de ce fameux baron que je ne connaissais pas. Il est considéré en Mongolie et chez les Bouriates, c'est-à-dire dans le sud de la Transbaïkalie, comme le dieu de la guerre. Et ça m'a beaucoup marqué, puisqu'on trouve son effigie dans les monastères. Tout le monde en parle, si je puis dire. Quand les Bouriates ou les Mongols voient un blanc arriver, tout de suite, c'est Baron Ungern. Et
Ah
ils en
vraiment,
font.
vraiment, c'est de nos jours encore, c'est
Oui,
ça que je veux dire.
de nos
Ouais,
jours, et
ouais.
j'y suis retourné en 2015, c'était toujours le cas. Donc 2006-2015. Et donc j'ai rencontré ce personnage un peu malgré moi, sans avoir fait de démarche particulière. C'est un peu lui qui est venu à moi. Après ce voyage, je me suis intéressé donc à Mabir. Après, j'ai lu Pratt, j'ai lu Posner, qui était un communiste et donc qui a
La morse aux
présenté,
dents, ouais, de Vladimir
voilà, qui a
Posner.
présenté le baron d'une façon très très dure, et comme tous les communistes l'ont fait. C'est-à-dire que c'était vraiment la bête immonde et la personne à honnir au-dessus de toutes les autres. Donc Posner, il y a eu aussi un témoignage d'un certain Dimitri Pershine qui vivait à Oulan-Bator, c'est-à-dire Ourga à l'époque, capitale de Mongolie, et qui a croisé le baron plusieurs fois. Alors évidemment, il y a un livre dont je n'ai pas parlé, mais qui est la
Ossendowski,
référence absolue, Ossendowski.
bien sûr.
Donc il faut absolument lire Ossendowski,
Bête, homme et Dieu.
Bêtes, hommes et dieux,
Ouais.
et c'est un livre absolument fabuleux, mais qui est très romancé. Donc pour les informations sur Ungern, ce n'est pas très fiable, voilà. Et on peut regretter que l'excellent petit livre, malgré tout, d'Éric Sablé reprenne un peu trop, à mon avis, les allégations de Sandowski à son compte. Donc c'est un petit peu regrettable parce que ça donne une vision totalement romancée, romanesque du personnage, alors que le personnage peut être observé par de multiples lucarnes, et notamment celle des témoignages, dont mon ouvrage est gorgé.
Alors justement, parlez-nous de manière générale de l'ensemble des textes qui donc constituent votre volumineux ouvrage, bon, qui
Oui.
ravira, hein, comme ça a été le cas pour moi, donc les admirateurs de cette figure qui a subi une certaine légende noire, certes, mais qui n'a cessé de fasciner de nombreux lecteurs depuis déjà plusieurs décennies.
Oui, alors je vais d'abord revenir sur le témoignage que nous avons publié, Laurent Chang et moi, avec les éditions du Verbo l'année dernière, qui était une relation d'un certain Noudatov, officier de l'armée d'Ungern, et c'est la première fois qu'on avait le témoignage d'un officier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce témoignage qui s'appelle Ungern, un officier témoigne, pardon, a été écrit par un officier retourné par les Soviétiques. Alors, néanmoins, l'ouvrage présente un grand intérêt, puisque le personnage Noudatov en question était vraiment au cœur des événements et relate vraiment les campagnes d'Ungern de façon très précise. Alors évidemment, pour les admirateurs d'Ungern, c'est un petit peu pénible parce que il passe pour un sadique, pour un malotru, pour tout ce que vous voudrez, pour un assassin. Et c'est un petit peu regrettable, et certains lecteurs m'ont fait remarquer, peut-être que ça aurait été le rôle de l'éditeur de le préciser en quatrième de couverture. Alors, avec Ungern, le dossier, on avait quelque chose de très différent. Ce sont des témoignages originaux. Je pense à Makeïev, qui était le chouchou d'Ungern, un petit peu comme le Christ avec son disciple qu'il aimait. C'était un peu le chouchou d'Ungern. Et qui a laissé un témoignage vraiment remarquable de plus d'une centaine de pages, même 120 pages ou 130 pages, je crois, très précis, très objectif, qui relate bien qui était le baron et les campagnes qu'il a faites. Donc voilà, on a un témoignage de première main. On a aussi un autre témoignage de première main avec un certain Riaboukine, qui était le médecin personnel d'Ungern. Donc, qui nous relate en une cinquantaine de pages à peu près sa relation avec le baron et les campagnes aussi, ce qui fait qu'on a deux visions déjà avec Makeïev et Riaboukine des campagnes d'Ungern. Après, on a Kniazev, archive que j'ai trouvée à l'Institut Hoover à Stanford, qui est un témoignage intéressant d'un officier d'Ungern. Il y a aussi un témoignage de son chauffeur, donc, qui parle surtout de la ville d'Urga, où que Ungern avait envahi, et il avait rétabli le Kutuktu, qui est l'autorité spirituelle de tous les Mongols, un
Oui.
peu comme le Dalai Lama, pardon, au Tibet. Et donc cette campagne qui est relatée en long et en large et en travers dans l'ouvrage est très bien relatée par tous ces témoins, notamment par aussi Chaïditsky, qui était aussi un soldat. Donc voilà, on a cinq témoignages directs qui constituent un document de plus de 250 pages. Le livre propose aussi des archives, donc un certain nombre de lettres du baron Ungern, qui n'ont jamais été éditées, dont une douzaine vient de l'Institut Hoover à Stanford toujours, donc qui m'ont gracieusement permis de retranscrire par écrit et dans un livre en français ces différentes lettres. Il y a aussi le procès du baron, donc de premier intérêt, qu'on avait publié déjà avec le Verbeau, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel, et le fameux ordre numéro 15, qui est en fait le seul ordre écrit est donné à Ungern, on suppose qu'il a été écrit par Ossendowski, qui est assez terrible, assez mystique, assez terrifiant, et qui a, je pense, grandement participé à la légende du baron fou. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose de fou dans ce texte, quelque chose de totalement mystique, de vraiment étonnant de la part d'un général russe. Mais Ungern est un personnage d'exception, un personnage mystique, un personnage légendaire, un personnage avec une aura absolument extraordinaire. Je ne crois pas qu'on ait d'exemple autre que lui dans l'histoire des 200 ou 300 dernières années. C'est vraiment c'est une sorte de Napoléon, mais mystique, et avec une toute petite armée. Voilà.
Voilà,
Et qui a
donc,
réussi à faire des choses curieuses.
ouais, rappelons quand même pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, quand même, que le baron Ungern a combattu dans les armées blanches, hein, pendant la guerre civile, donc, qui a déchiré l'Empire russe, hein, après donc, la révolution bolchevique. Et que bon, Ungern était lui-même d'origine balte, même avec une lointaine ancestralité qui l'a amené d'ailleurs, comme son patronyme l'indique, jusqu'en Hongrie, quoi, avec des chevaliers teutoniques, hein,
Jusqu'en Hongrie,
musulmans.
d'une famille de chevaliers teutoniques, effectivement. Une très ancienne famille qui a été anoblie, me semble, en 1190. Donc une famille très connue avec des ancêtres héroïques. Et je pense qu'il avait cet atavisme-là, c'est-à-dire vraiment l'héroïsme chevronné au corps. C'est un personnage très mystérieux. Hein. C'est un personnage qui se tenait en permanence dans le silence, qui avait une rigueur extrême, qui était d'une extrême dureté avec lui-même avant de l'être pour les autres. On l'a présenté comme un baron sanguinaire, mais en réalité, c'est plus ses sbires que sont Sipailov,
Ah,
Bourdoukovski,
Sipailov, oui, je me souviens.
oui. Ils sont des tortionnaires
Ouais.
et que le baron tolérait. Ça, peut-être qu'on peut lui reprocher. Mais lui-même n'était pas un sadique, c'était un homme extrêmement dur parce qu'il était dur avec lui-même, et ça, je tiens vraiment à le dire. Donc, cet ouvrage, Ungern, le dossier que je publie, fait part aussi de plusieurs présentations, notamment Evola, Ossendowski, Guénon, moi-même. Je l'ai fait un petit
Oui,
peu.
prenez un extrait du Carrousel des Ombres.
Ouais, je mets un extrait du Carrousel des Ombres parce que dans cet
Carrousel des Ombres.
extrait, il y a le témoignage du général Wrangel. Donc, qui est aussi intéressant, d'autres allusions. Etc. Donc, il y a un Américain, Greiner, qui témoigne, qui a vu le baron aussi, donc qui en fait une relation. Donc, ça, c'est vraiment la partie présentation. Vous avez 70 pages de présentation du baron par différentes personnalités. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en début d'ouvrage. Après, vous avez donc les témoignages. Alors, attendez, oui, non, j'ai oublié. Ensuite, vous n'avez pas les témoignages. Ensuite, vous avez un livre d'histoire en entier sur la déroute des armées blanches et qui fait une large part à Ungern et surtout qui permet de tout remettre en contexte. On lit les présentations, on est enthousiasmé. Après cela, on a une explication historique, une recontextualisation, quelque chose de très précis. Et je tiens à dire que la personne qui a rédigé ça l'a fait en 1936 à Harbin, a été témoin des événements.
Oui, où il y avait beaucoup d'exilés, hein, blancs
Il y avait
notamment.
beaucoup d'exilés, et la
Ouais.
plupart ont fini soit à Harbin, soit à Shanghai,
Ouais.
etc. Ils ont fui évidemment la Russie qui allait devenir l'Union
Parfois comme
soviétique.
conseiller militaire dans l'armée de Chiang Kai-shek, hein, voilà,
Tout à fait,
etc. Ou des seigneurs de la guerre, quoi.
ou chez les Japonais,
Ouais, ou chez les Japonais aussi, oui, tout à
ou
fait.
en Chine, au Tibet aussi. Enfin bon, tous se sont exilés dans le Turkestan chinois aussi, on en trouve beaucoup. Donc je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, ce fameux livre d'histoire de Serebrennikov, je n'ai pas son prénom en tête, mais Serebrennikov, qui est une excellente contextualisation et tout à fait favorable aux armées blanches. Donc je pense que vos auditeurs et mon lectorat seront tout à fait heureux de lire ce livre
Voilà,
d'histoire.
de Divan Serebrennikov, hein,
Voilà, Ivan
lequel,
Serebrennikov, si vous
voilà,
avez
la grande fuite, la dispersion des armées blanches russes et nazies 1917-1923.
Voilà, qui a été écrit en 36, donc c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit dans les années
Voilà.
80 ou dans les années 2000. C'est quelque chose qui a été fait à chaud avec tous les témoins vivants. Donc c'est très, très intéressant. Et je pense qu'on a un ensemble avec ce livre. Donc Unger, c'est pour ça que j'ai appelé ça le dossier. C'est qu'enfin, on a un ensemble cohérent qui pourra servir aux futurs romanciers, qui pourra servir aux historiens. Parce que c'est vraiment des sources de première boucle qui sont toutes attestées par Kouzmine en Russie. Kouzmine, qui est le grand spécialiste russe de Ungern. Donc j'ai vérifié tout ça. Et donc tout ça est attesté. Tous ces témoignages sont véridiques. Il y avait, j'ai en ma possession, deux témoignages qui sont contestables. Alors, le premier est le Noudatov que nous avons publié l'année dernière. Qui est contestable seulement du point de vue, enfin, du fait que l'officier en question a été retourné, ce qui n'empêche que le livre est très intéressant du point de vue des campagnes, du point de vue de la réalité, de l'ambiance, etc. Et un témoignage de Volkov que je pourrais transmettre à qui le veut.
Ce n'est
J'ai
pas
le.
Vladimir, bien sûr.
Non, c'est pas Vladimir. Et puis, alors, il y a beaucoup de Volkov en
Bien
Russie.
sûr, je sais bien.
C'est un peu comme les Durand chez nous. Hein. Donc, oui, il y a donc ce texte de Volkov que je n'ai pas publié parce que Kouzmine a émis un doute sur sa véracité. Est-ce que Volkov était bien présent à ce moment-là? Est-ce que c'est pas encore un coup des soviétiques pour salir le baron? Voilà. Donc vous avez le baron, qui sait? Ben, ça dépend de qui parle en fait. C'est-à-dire que si vous tombez sur des gens de gauche, etc., ils vous diront que c'est un immonde sadique. Si vous tombez sur des gens plutôt de notre bord, ils vont vous dire que c'est un être fabuleux. Si vous tombez sur des traditionnistes, ils vont vous dire que c'est un personnage mystique. Vous rattachez ça au roi du monde, à l'Agartha, à des mythes bouddhistes et ce genre de choses. Donc c'est un personnage protéiforme, multifacette, extrêmement intéressant. Et je pense qu'avec le livre que je publie, on fait le tour du personnage. Et 525 pages, ça me semble un format correct pour faire vraiment le tour de ce qu'était le baron. Et j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées sur lui qui sont absolument pas sûres du tout. Même l'excellent, je répète qu'il est quand même excellent, petit livre d'Éric Sablé, quand il parle de l'enfance d'Ungern, de son adolescence, de sa vie de caserne, etc., il ne se fonde sur rien. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de témoignage de cette époque, à part Vrangel Wrangel qui a témoigné, mais sur le tard, c'est-à-dire quand Unger était déjà majeur, qu'il était déjà officier, on ne sait rien du reste. Est-ce qu'il a eu un amour? Il paraîtrait qu'il a eu un amour. Donc voilà, il a épousé une princesse chinoise, ça c'est sûr, de laquelle il a divorcé un an plus tard, mais c'était pour des questions d'alliance militaire. Et dès qu'il a vu que ça tournait court avec les Chinois, il s'est bien dépêché de la répudier. Mais donc on ne sait rien sur Ungern avant ses premières interventions et ses premières campagnes en Mongolie, qui se sont faites dès avant la guerre civile. Donc c'est quelque chose qu'il connaissait bien cette région, une région fascinante par ailleurs, que je connais très bien puisque je suis allé plusieurs fois, j'ai passé dans cette zone précise plus de 6 mois. Une petite anecdote marrante,
Oui, pour
enfin marrante.
terminer, il nous reste une minute, mon cher Paul.
Oui. Une anecdote curieuse, quand je suis allé à Daouria, qui est la ville du baron Ungern, la ville des chemins de fer blindés, etc., quoi, des trains blindés, j'ai été invité par le responsable de la caserne, une caserne de garde-frontière, à dormir dans la chambre d'Ungern, qui était une salle de sport. Et ils ont poussé tout le matériel de sport, ils ont installé un lit, et ils m'ont dit, voilà, tu vas dormir dans le lit du baron Ungern.
Une
Et donc,
expérience vraiment singulière, hein, que nous sommes
pendant sa
nombreux à
vie.
vous envier, quoi. Alors, mon cher Paul, je vais devoir interrompre notre passionnant entretien.
Oui.
Donc, je rappelle les références de votre copieux ouvrage et tout le mérite qui lui revient, hein, parce que je sais que nous avons échangé pendant longtemps, c'est un processus de longue haleine. Donc, Paul Serey, S-E-R-E-Y, Ungern, le dossier, archives inédites, présentations, témoignages aux éditions Basse-Terre, donc qui sera dans un premier temps disponible sur Amazon pour la somme de 29 euros et peut-être ultérieurement dans certaines librairies.
Très sûrement et dès maintenant en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que pour les auditeurs qui craignent un peu Amazon, il y a la possibilité de faire commander par votre libraire à partir de demain, je crois. Enfin, là,
Enfin.
on est mercredi aujourd'hui, mais à partir de ce jeudi, donc là, quand l'émission sera transmise,
Tout à fait.
je pense que les auditeurs qui détestent Amazon
Ouais.
peuvent le commander chez leur libraire. Voilà.
Très bien, mon cher Paul. Écoutez, je vous remercie de cette présentation. Bon vent pour votre dossier, hein, donc qui évoque cette figure qui nous est chère, cette figure mythique, devenue mythique. Et moi, je vous souhaite, chers auditeurs, une bonne écoute et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures métapolitiques le mois prochain. Au revoir et merci, Paul, d'avoir été présent.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 15 avril 2026 et diffusée pour la première fois samedi 18 avril 2026, de midi à 13h30, et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.